Le changement climatique n'est pas un problème parmi d'autres, n'est pas un problème comme les autres, c'est quelque chose qui change tout, radicalement tout, de manière irrémédiable. Bref, c'est un changement d'époque. Ce podcast donne la parole à 16 agricultrices et agriculteurs rencontrés dans les départements de la Nièvre et de la Corrèze. Je m'appelle Alexis Gonin, je suis géographe, enseignant-chercheur en géographie. Enquêter, observer, poser des questions, écouter. D'abord pour essayer de comprendre, ensuite de transmettre. Aux autres, habitants, citoyens, élus, décideurs, à mes étudiants, transmettre ce que j'ai compris sur le terrain. J'ai donc voulu mener l'enquête pour comprendre ce qui se passait pour l'agriculture avec le changement climatique. En 2024, je suis parti m'installer un an dans le pays Nivernais-Morvan, dans le département de la Nièvre. Avec une équipe de chercheurs, nous sommes aussi allés régulièrement en Haute-Corrèze. En tout, nous avons réalisé plus d'une centaine d'entretiens. Le Morvan et la Haute-Corrèze appartiennent tous les deux au grand bassin d'élevage allaitant du centre de la France. Le Nivernais est un espace intermédiaire. J'ai rencontré des polyculteurs-éleveurs et des céréaliers. Les bases des systèmes agricoles et alimentaires actuellement majoritaires ont été posées il y a 70 ans, à l'époque de la modernisation agricole. La chimie, la motorisation, la spécialisation ont permis durant des décennies d'accroître les rendements et la productivité de cette agriculture. Les agricultrices et agriculteurs que nous avons rencontrés sont les héritiers de ce système aujourd'hui encore très majoritaire. Mais avec le changement climatique, nous sommes entrés aujourd'hui dans une nouvelle époque. Je voudrais comprendre ce qui se passe dans des territoires agricoles bouleversés par le changement climatique. Au cœur de cette enquête, une grande question. Est-ce que les systèmes agricoles et alimentaires hérités de l'époque de la modernisation peuvent s'ajuster aux nouvelles conditions climatiques pour perdurer comme avant? Ou alors, est-ce que la nouvelle époque climatique pose de tels défis aux acteurs que j'ai rencontrés qu'ils doivent transformer en profondeur les systèmes qui nous nourrissent? Dans ce premier épisode, nous allons tenter de comprendre pourquoi on peut parler de nouvelle époque climatique. Qu'est-ce qui a changé pour les agriculteurs dans leur territoire? Premier épisode, une nouvelle époque climatique pour l'agriculture.
Les principaux changements qu'on a observés, c'est des périodes de pluie ou de sec de plus en plus longues. Et un agriculteur, il vous dira toujours que le beau temps, c'est le temps qui ne dure pas. Parce que si le temps dure trop longtemps, et bien à un moment donné, on a trop d'une chose, soit de pluie, soit de froid, ou soit de soleil. Donc, et ça, c'est vrai que j'avais l'impression qu'avant, c'était plus, il y avait plus d'alternance. Je m'appelle Fabrice Bébeau, éleveur depuis 1996 en Haute-Corrèze. Donc, j'exploite 150 hectares, tout en herbe, avec actuellement autour de 130 vélages en Limousin.
Alors, notamment, on a des périodes sèches, très arides, et après, une période où c'est très humide. Voilà, donc comme cette année, on avait des intempéries quand même. Il a plu 40 jours de suite, il me semble. Donc ça, on n'avait pas trop l'habitude. Je m'appelle Jeanne Orliange. Je suis exploitante agricole à Saint-Mars-les-Oussines, sur le plateau de Millevaches. J'élève des vaches de race limousine en sélection. Je me suis installée en 2001 sur l'exploitation familiale. Dans un premier temps, j'étais en société avec ma mère, en GAEC. Et maintenant, je suis en individuel, je suis toute seule sur l'exploitation. Alors, j'ai 200 hectares et j'ai 100 vaches mères.
Nous sommes en Haute-Corrèze, mais le plateau des Millevaches n'est plus tout à fait le même depuis que les effets du changement climatique se font clairement ressentir. Nous sommes dans le Nivernais. Mais depuis quelques années, le climat change. Et avec lui, changent les milieux cultivés par les agriculteurs. C'est un autre Nivernais qui n'est pas le même que celui que nos parents et nos grands-parents avaient connu. Nous sommes dans le Morvan, mais c'est un autre Morvan.
Ah ben c'est facile à voir, là, surtout moi, hein, parce que quand j'étais petit, il y avait de la neige tout l'hiver. Et on emmenait les bêtes boire, il n'y avait pas l'eau dans les bâtiments. On emmenait les bêtes boire comme ça, il y avait de la glace sur la route. Moi, je me rappelle tout petit, on coupait la glace avec la cognée pour faire boire les bêtes l'hiver. Hein. Monsieur Prosper Bernard de Moreuillon. J'exploite 230 hectares par là. Et aujourd'hui, il n'y a plus de gelée. Donc, c'est impressionnant. Hein. Même dans les stabules, quand je me suis installé, il y avait des abreuvoirs chauffants. Aujourd'hui, Les abreuvoirs chauffants, on ne sait même pas s'ils marchent encore. Hein.
Oui.
On ne les branche plus. Parce que là, c'est vraiment... on n'a plus de gelée l'hiver. Hein. L'herbe, elle pousse l'hiver, et puis au mois de juillet, elle ne pousse plus. Hein. De toute façon, vous enlevez les bêtes d'un pré, 15 jours après. Bon, ça ne pousse pas pour... Mais vous voyez que ça verdit. Mais bon, puis même les arbres, hein, qu'est-ce que ça va devenir? Il faut voir les arbres qui sont morts. Hein. Et l'autre fois, voilà, peut-être un mois et demi, il y avait un pommier vermonon qui était en fleur, et l'épine noire qui était en fleur. Bon, pas de la fleur comme au printemps, mais quelques fleurs et l'épine noire. Donc ça veut dire quand même quelque chose, ça. Hein. De toute façon, on n'a plus d'hiver, on n'a plus de neige, on n'a plus rien. Hein.
Des excès, de grandes variations, des saisons à l'envers. Ce sont des agriculteurs bousculés que j'ai rencontrés. J'entends souvent la surprise, l'étonnement devant ce qui arrive. Dans les projections pour 2050, dans les rapports du GIEC, le changement climatique, il faut bien le dire, nous semble abstrait, il nous laisse froid. Mais quand il nous touche, là, maintenant, dans des territoires où nous vivons, c'est autre chose.
Alors déjà les hivers, parce que les hivers de mon enfance, c'était des hivers quand même beaucoup plus froids que maintenant. On avait des hivers avec des moins 10, moins 15... Alors, le record absolu, c'est 85. Et mon père, dans les bâtiments, moins 27, moins 30. Donc, ça commençait de pincer un petit peu. Didier Baumier, j'ai 63 ans. Je suis installé depuis 1986. Donc, c'est mon 40e hiver. Une exploitation de polyculture élevage, un troupeau de 130 vaches limousines, et à côté de ça, il y a 160 hectares de céréales. Ce qui est flagrant, c'est qu'il y a, 25-30 ans, vous aviez des saisons marquées. On savait qu'à l'ascension, il y avait une modification du temps. À l'ascension, vous aviez un orage. Vous aviez un système, une perturbation qui allait amener les millimètres pour finir le cycle des céréales. 15 août, c'était pareil. Soit vous aviez des orages qui faisaient qu'après vous basculiez plus ou moins dans l'automne, mais qui vous amenaient des conditions humides pour les semis de fin d'été. Ça, c'est plus du tout marqué. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que les moyennes pluviométriques sont identiques, simplement, c'est pas au bon moment. Et c'est des périodes de flotte pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, puis après, bah, ça sera le contraire. Ça fait que c'est un petit peu perturbant quand même. Et pas facile pour travailler.
Le GAEC de Sounalé, associé à Depart. On est une exploitation qui compte 162 hectares avec 18 hectares de maïs. Dessus, on a deux productions, une production laitière avec 45 vaches Primostein et 80 vaches allaitantes de race limousine. Et les broutards, on est naisseurs-engraisseurs et on vend les broutards.
Enfin, on n'est que naisseurs.
Oui, pardon. Faudra couper.
On n'est pas engraisseurs.
Naisseurs, d'accord.
Naisseurs et on vend...
Un privé qui exporte après à l'Italie.
Qu'est-ce qui change dans le climat et dans la nature depuis que vous vous êtes installé ?
Oh bah la neige. Il y a moins de neige et c'est pas plus mal pour nous. Ouais. Ça nous évite une contrainte de déneiger le matin parce qu'il en tombait quand même 30 cm des fois la nuit. Et c'est vrai que le matin, il y a du travail de déneigement à attaquer avant de pouvoir sortir le matériel pour aller donner aux vaches, quoi. Donc ça, ouais, on voit bien que les hivers sont moins froids qu'avant. Et après, niveau du printemps, tout ça, il y a... Peut-être la pousse de l'herbe qui est un peu plus précoce.
Ben oui, la pousse de l'herbe est plus précoce.
Parce que maintenant, on arrive à monter à des 36, 37, même 38, qu'avant, on n'avait pas ça. Enfin, les températures, quand nous, on frôlait les 32, c'était le grand maximum
qu'on
pouvait
avoir.
Oui, même
28. Hein.
28, 30, ouais. Mais maintenant, ouais, c'est vrai que c'est chaud et c'est compliqué, quoi.
Dans ce que me disent les agricultrices et agriculteurs, j'entends un avant et un après. Mais quand le changement climatique a-t-il commencé dans le Nivernais-Morvan et en Haute-Corrèze? Les plus anciens se rappellent de la grande sécheresse de 1976. La canicule de 2003 est également restée dans la mémoire collective. Mais ces 10 dernières années, la fréquence et l'intensité des aléas météo extrêmes ont augmenté, si bien qu'il ne semble plus y avoir beaucoup d'années normales. 2016 avait été une année météorologique catastrophique pour l'agriculture. Puis à partir de 2018, une série de sécheresses qui se répètent plusieurs années de suite commence. On se dit, voilà, nous sommes entrés dans une nouvelle période climatique, plus chaude et plus sèche. Mais en octobre 2024, la pluie commence à tomber, et dans l'année qui suit, les totaux pluviométriques sont exceptionnels. Ce serait donc plutôt ça, la nouvelle donne climatique. Plus d'excès, plus d'imprévus. Une époque marquée par l'incertitude.
On va dire des conditions extrêmes. Des variations de climat très... On peut passer d'une température, d'avoir des risques de gel sur des cultures en hiver, et d'un seul coup, on va dire en 10 jours de temps, comme on a pu l'avoir à ces jours-ci, repasser à du 15 degrés. Donc c'est des choses que, par le passé, de par ce qu'on a pu me dire de mes parents, mes grands-parents, qui n'existaient peut-être pas forcément. Rato Ludovic, donc exploitant agricole sur la commune de Metz-le-Comte. J'ai 39 ans. Je suis sur une exploitation à dominance culture céréalière, polyculture élevage. Une exploitation donc de 400 hectares de céréales et un petit atelier bovin à côté. Des sécheresses assez marquées maintenant l'été. Bon, un peu moins depuis 2 ans. Faut dire que depuis 2 ans, on va dire, on a peut-être retrouvé un climat plus normal, je sais pas, presque, tout ça dépend comment on définit ce qui est normal ou pas. Mais c'est vrai que moi, en 17 ans de pratique, je crois que j'ai eu plus d'extrêmes de niveau météorologique que mon père en a eu dans toute sa carrière. On a toujours ces écarts qui sont plus importants. En 2003, quand il y a eu un gel en 2003, on avait 17 degrés, on va dire, le jour avant de la gelée. En 30 heures, on est descendu à moins 15.
Il y a 30 ans déjà, j'avais pas besoin de porter de l'eau aux vaches, parce qu'on est sur le pays des 1000 sources, et j'avais des sources et des points d'eau absolument dans tous les prés. Donc moi, porter l'eau aux vaches, je savais pas ce que c'était. Et là, depuis la première grosse sécheresse, c'était avant 2015, je sais plus. Et depuis, je porte de l'eau aux vaches tous les ans maintenant. Il y a des sources qui ont tari et qui reviennent pas malgré les quantités d'eau importantes qui tombent, voilà, où elles sont très éphémères au printemps et d'arriver l'été, sèche quoi. L'amour Sébastien, éleveur sur le plateau de 1000 vaches, sur la commune de Saint-Mère-les-Oussines. Alors aujourd'hui, j'ai près de 200 hectares. J'ai 70 vaches limousines, production broutard, et après vaches de réforme, que j'espère finir à l'herbe quand il y en a. C'est très localisé, j'ai remarqué qu'en fait, quand on prend de l'eau, c'est des orages. Alors, quand c'est des fois, ça peut être dévastateur. Je ne sais pas si vous êtes monté du côté de la Courtine ou là. Là, ils prennent de la grêle. Ça fait 2 années de grêle qu'ils prennent. Mais je vous parle de grêlons qui massacrent tout. C'est des boules de pétanque. Hein. Donc, en fait, même sur du côté de Mémac, là, ils ont pris de la grêle, là, du côté de la Viale et tout. Donc, ils étaient contents. Il y avait de bons rendements en première coupe. Et la grêle est passée dessus. Ils ont ramassé 50% de ce qu'ils devaient ramasser. Et en plus, l'herbe pourrie, elle est hachée, quoi. Donc, c'est pas de la bonne qualité, quoi. Donc j'entends par là que c'est très aléatoire. On peut prendre 50 mm d'eau là, et de l'autre côté, 2 km plus loin, même pas 1 km plus loin, ils vont rien prendre, quoi. Ou pire, on peut prendre de la grêle là, enfin c'est difficile à... Voilà, quoi.
Bien sûr, le changement climatique, c'est d'abord ça, des aléas météo, des extrêmes, des décalages, des renversements dans les saisons, comme si quelque chose s'était mis à l'envers. Mais ça ne m'étonne pas. Quelque part, c'est ce que je savais déjà avant de venir sur le terrain. Or, il y a quelque chose d'autre qui surgit assez vite dans les entretiens que je mène sur le terrain. Quelque chose que je ne mets pas immédiatement en lien avec le changement climatique. Pourtant...
Donc les prairies sont soumises à des gros stress, puisqu'un coup c'est la sécheresse, et un coup d'après c'est l'inondation presque. Et effectivement, c'est les bonnes variétés disparaissent. Et par exemple, j'ai une parcelle où il ne restait plus que du plantain, ce qui n'est pas bon pour les bovins. Donc là, il faut refaire des prairies. Et je laboure et je refais une prairie. Et ça, c'est vrai que j'ai des prairies très anciennes et il y a depuis une dizaine d'années là où je suis obligée de refaire de la prairie.
Le plantain est une herbacée vivace, une plante non désirée qui peut rapidement proliférer dans les champs et les prairies. C'est ce qu'on appelle une adventice, une mauvaise herbe. Bien sûr, il y a toujours eu des adventices. Elles n'apparaissent pas avec le changement climatique. Leur dissémination dépend entre autres des pratiques culturales. Des excès d'azote dans les terres, des résistances aux molécules herbicides qui se développent. Et entre tous ces facteurs, les agriculteurs notent les effets des aléas météo sur la prolifération des espèces d'adventices déjà présentes et l'arrivée de nouvelles espèces.
On découvre des mauvaises herbes qui n'existaient pas avant, essentiellement par exemple dans les tournesols, l'ambroisie, qui à l'époque on arrivait un petit peu à contrôler, mais maintenant ça devient de plus en plus difficile. L'ambroisie se plaît bien dans le sec. Donc, comme on a des étés de plus en plus secs, ça. Et puis maintenant, le daturor qui commence à apparaître. Alors, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps lors d'une formation à renouvellement certiphyto où j'ai appris que le datura commençait à apparaître dans le département. Donc, j'ai été relativement surpris parce que c'est une plante qui est plutôt basée sur l'Atlantique, ouais. Zone sableuse. Donc, apparemment, elle apparaît dans l'Agnière, donc ça va être une problématique d'ici quelques temps. Ça, et au niveau des insectes, l'exemple, les colzars, des périodes des automnes très chauds, avec des attaques d'insectes qui sont plus longs.
On a quand même eu des mois d'août très secs, et le colza, on le sème au mois d'août. Le colza, il fait quasiment 11 mois dans le sol pour arriver à maturité. Et donc, en fait, on avait, ayant peu de pluie, de précipitations, courant août, septembre, la fenêtre de tir pour semer n'était pas évidente. Et en fait, si le colza se développait pas rapidement, on a des insectes donc qui volent à cette époque-là, notamment les altises. Et quand on a un colza robuste, en fait, même si les insectes viennent, bon, on va faire un insecticide ou pas. Et le colza va arriver à, vu qu'il pousse vite, il peut accepter la petite contrainte que va causer les insectes. Sauf que quand on a des petites cultures chétives qui ne poussent pas, si l'insecte vient, il est plus faible, elles vont pondre dedans et les larves vont se développer. Et après, un tout petit pied qui fait, en termes de diamètre, qui va faire même pas un centimètre de diamètre, les larves vont entrer dedans et ça va être un carnage. Mais c'est vrai que du fait de plus avoir de gelée, moins de gelée l'hiver, tout ça, on a quand même des insectes, du coup, avant l'hiver, du fait d'avoir beaucoup d'eau, les gels, le gel, tout ça, il y avait une perte d'insectes qui mouraient par l'hiver, quoi. Et aujourd'hui, il y a des populations qui restent parce que, voilà, on n'a plus ces saisons qui pouvaient se faire comme auparavant, quoi.
Des adventices, le plantain, le datura, l'ambroisie, et maintenant des insectes, parfois qualifiés de bioagresseurs, comme les altises. Ce que je commence à comprendre, c'est qu'avec le changement climatique, il y a des intrus qui arrivent. Des plantes, des insectes qui n'étaient pas là avant. Nouveaux acteurs, nouvelles pièces. Nous sommes toujours dans le Nivernais, nous sommes toujours dans le Morvan, nous sommes toujours en Haute-Corrèze. Mais les écosystèmes naturels, leur faune, leur flore, considérés jusqu'alors comme du décor, entrent désormais en scène. Et disons qu'ils ne sont plus aussi dociles qu'auparavant.
Ben, on a la maladie, la pyroplasmose, là. C'est la maladie des tiques. Ça fait des hémorragies au niveau des vaches, au niveau des reins. Mais le problème, c'est que cette année, comme il faisait chaud, on a mis des vaches au milieu des bois. On a changé les parcelles.
Et c'est dans ces parcelles-là que les vaches sont rendues malades.
Dans ces parcelles, il y avait des tiques qui étaient malades. Mm. Et c'est pour ça qu'on a eu la maladie de la pyroplasmose sur des vaches.
Oui, il faut traiter en urgence, oui. Ouais. Et bon, on en voit de plus en plus, des tiques de bonheur. Là, quand les vaches ont commencé à sortir, on les voit au printemps, alors qu'on ne les voyait pas avant, les tiques. Même tard, après, dans la saison.
On a énormément de tiques, nous, maintenant. Donc, avec toutes les maladies, herlichiose, maladie de Lyme. On le voit bien. Alors bon, moi, maintenant, l'herlichiose, ça commence. Lyme, ça commence aussi à... Encore que je me demande si elles s'immunisent, Lyme. Parce qu'elles restent, elles sont jamais très en forme. On voit bien qu'elles gardent des boiteries. Et ces fameux œdèmes mammaires, ça leur déforme le pie et perte des quantités de lait qu'elles produisent. Alors, moi, je ne suis pas un éleveur laitier, mais on voit bien que le veau est moins bien nourri derrière, quoi.
Et vu que les parcelles sont rongées, tondues très bas, généralement, dans les 2-3 mois derrière, donc c'est-à-dire au mois d'octobre, novembre, quand on rentre les animaux, il y a une grosse présence de parasites qu'elles ont ramassés en mangeant. Et du coup, il y a un gros suivi de traitement à faire pour pouvoir les aider à passer le cap et à éliminer ces larves ou ces vers donc par un traitement chimique ou à base de plantes pour éliminer ces vers et ces parasites.
Alors après, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais ici on a des problèmes de FCO qu'on n'avait pas avant. Est-ce que c'est dû au changement climatique ? Ça, alors là, je ne saurais pas le dire, parce que je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui sache le dire.
La fièvre catarrhale ovine, FCO, est une maladie qui touche les bovins et les ovins, provoquant des fièvres, des malformations et des pertes de veau. La FCO, comme la DNC, dermatose nodulaire contagieuse, ou la MHE, maladie hémorragique épizootique, sont des virus originaires des zones tropicales et dont l'aire de répartition s'étend avec le réchauffement climatique. La maladie circule par l'intermédiaire des culicoïdes, des petits moucherons qui sont le vecteur de la maladie. La FCO circule également par les flux d'animaux porteurs de virus. Le problème ici, c'est pas seulement le changement climatique, c'est le changement climatique et la mondialisation de l'agriculture. Des effets indirects du changement climatique, des facteurs multiples, des relations de causalité plus difficiles à établir. L'enquête s'embrouille, mais l'enquête avance.
L'impact du changement climatique, moi je le verrais plus au niveau toutes les saloperies qui volent et les cochonneries qui poussent.
C'est-à-dire ?
Alors les saloperies qui volent. Aujourd'hui vous avez des tas de maladies, hein, on est en plein dedans, entre autres la DNC, un truc qui vient pour l'Afrique du Sud, je crois, qui n'a rien à foutre chez nous. Si on avait des hivers un peu rudes, un peu avec des périodes de gel, les moucherons, les machins, ça dégage.
Ce zonage-là a été réalisé par les vétérinaires, qui eux vont dans tous les élevages. Donc ils ont bien vu les zones impactées, et la zone impactée, enfin, ce qui concerne notre secteur, la zone impactée a été ce fameux contrefort du Morvan. C'était que les contreforts, parce que le plateau un petit peu au-dessus, quasiment rien. Voire rien. Par contre, eux ont été impactés cette année. Donc il y a eu du décalage. Alors pourquoi ? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu un second passage d'insectes l'été 2025, printemps, été et automne 2025 sur leur secteur à eux et pas nous ? Ou alors c'est parce que nos animaux étaient immunisés et que eux ne l'étaient pas étant donné que l'an dernier ils n'en ont pas eu et donc ils n'ont pas vacciné. Plein de facteurs rentrent en ligne de compte, mais ceux qui n'ont pas été l'an dernier ont été cette année, et ceux qui ont été fortement l'an dernier ont été beaucoup moins cette année.
L'an dernier, j'ai pris très cher. Ah. J'ai eu des dégâts. En fait, ça fait longtemps qu'on parle de la FCO. Au début, la vaccination était obligatoire. On a arrêté parce qu'il n'y avait pas de problème. Et pendant 15 ans, on n'a pas eu de souci avec la FCO. Hein. Les vétérinaires ont voyé quelques cas de temps en temps, mais vraiment très isolés. Et il y a eu une vague l'an dernier, mais ça a été terrible. Hein.
La FCO, l'an dernier, a été catastrophique, puisque j'ai perdu entre les avortements et les vêlages de veaux FCO aveugles ou non viables, ou enfin bon, bref, sur la finalité du résultat, j'ai perdu en gros 50% de mes veaux. Quelques-uns ont survécu, mais bon, c'est des animaux de cirque plus qu'autre chose. Mais voilà, la perte est de 50%.
Le changement climatique, ce n'est pas toute une région qui bascule sur un climat plus chaud, par exemple. Ce qui marque les agriculteurs que je rencontre, ce sont des aléas météo plus extrêmes, plus fréquents, des périodes plus longues de sec ou de pluie, des saisons moins marquées. Il y a un avant et un après changement climatique. Voilà pourquoi on peut parler de nouvelle époque. Mais c'est pas seulement ça. Ma première découverte dans cette enquête, c'est ma rencontre, par l'intermédiaire des agricultrices, des agriculteurs, avec le plantain, les altises, l'éthique, la FCO. La nouvelle donne climatique, c'est tout un environnement qui change, tous ces écosystèmes avec lesquels, dans lesquels les agriculteurs travaillent, qui ne fonctionnent plus tout à fait comme avant. Les saisons et les années se suivent et ne se ressemblent plus du tout. Des aléas météo, des intrus, des nouveaux acteurs, qui ensemble marquent le passage à une nouvelle époque et à une nouvelle géographie du Nivernais Morvan et de la Haute-Corrèze. Le changement climatique est donc une transformation plus diffuse, plus insidieuse que ce que j'avais cru en commençant cette enquête. La question qui se pose désormais, c'est qu'est-ce que ça change pour les agriculteurs ? Quelles sont les conséquences de ces transformations pour des systèmes agricoles conçus avant l'époque du changement climatique ? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Le podcast Agriculture, la mutation climatique, une enquête en Nivernais-Morvan et Haute-Corrèze, est issu du projet de recherche-action participative Territoire terrestre. Ce projet de recherche est réalisé en partenariat entre l'Université Paris-Nanterre, le Pays Nivernais-Morvan et Haute-Corrèze Communauté. Il a reçu le soutien financier de l'Université Paris-Nanterre et de l'ADEME. Paula Roger a réalisé les entretiens avec les agriculteurs en Haute-Corrèze Communauté. Alix Chenel a participé à l'écriture du podcast.
Parce que le bon temps pour un paysan, c'est le temps qui ne dure pas trop longtemps.
Une réalisation de Xavier Joly pour la Grande Zaza Productions.